Vous écoutez On lit pour vous.
Parlez-vous, Nucci? Un texte de Roger Clavet, paru le 12 juin 2024 dans l'Express.ca de Toronto. S'il arrivait que deux Ivoiriens se croisent au pôle Nord, bien que francophones, c'est assurément en Nucci qu'ils échangeraient. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais un spécialiste ivoirien en communication croisé dans une chaîne de restauration rapide américaine à Abidjan, capitale ivoirienne de 7,5 millions de personnes. Nous, les Ivoiriens, on se reconnaît partout, facilement, même au pôle Nord. Avec deux ou trois mots en Nucci, on devine « chap chap » vite vite, si tu es un des nôtres. Soutien, David Kouakou Kouadio, diplômé de l'École de communication de la radio-télévision ivoirienne, communicateur publicitaire depuis une douzaine d'années. En Afrique de l'Ouest, confie-t-il, les mots sont importants, compte tenu du métissage des langues et des populations. Ils nous permettent de nous intégrer dans le milieu où nous vivons. Juste en Côte d'Ivoire, par exemple, où le français demeure la langue officielle, nous cohabitons avec une soixantaine d'ethnies. Le parler Nucci, qui emprunte aux langues ivoiriennes, mais aussi aux dialectes burkinabé, malien, sénégalais et guinéen, rejoint pas mal de monde, sans distinction d'origine ou de classe. Du pôle Nord à la Coupe d'Afrique des Nations. Anderson, fidèle à Zoku, ne dit pas le contraire. Ce courtier en assurance, grand amateur de Scrabble, rencontré dans un maquis, buvette, d'Abidjan, n'a que de bons mots pour le Nucci. Le Nucci, c'est un cocktail de mots qui emprunte avant tout aux langues d'ici, en Côte d'Ivoire, pour mieux traduire nos réalités. Et ce n'est certainement pas parce qu'il manque de mots dans la langue française, lance-t-il. Le courtier a recours à un vieux truc de son métier pour illustrer pourquoi le Nucci apporte une plus-value à son pays. Lors de la Coupe africaine des Nations, en février 2024, pour laquelle la Côte d'Ivoire a été le pays hôte et grand champion, les joueurs des Éléphants, notre équipe nationale de football, auraient dû échanger entre eux en Nucci plutôt qu'en français. Si on l'avait fait, les Sénégalais n'auraient rien su de notre plan de match. Mais qu'importe, nous avons gagné, observe triomphalement le scrabbleur invétéré. Nucci Tionnaire. À mon arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le mot « aquaba », qui veut dire « bienvenue » ou « bonne arrivée » en langue akane, résonnait partout dans l'aérogare. Mais ce n'était pas encore du Nucci. Puis, peu à peu, à mesure que mon oreille s'habituait à l'environnement ambiant, j'ai réussi à capter, sans les comprendre, des expressions que s'échangeaient avec de larges sourires complices beaucoup de voyageurs ivoiriens. C'était du Nucci. J'ai noté pêle-mêle quelques mots Nucci dont j'ai trouvé le sens grâce au Nucci Tionnaire, un outil en ligne qui recense les mots et expressions de cette langue créole devenue partie intégrante de la culture populaire ivoirienne. Par exemple, le plus connu des mots en Nucci est sans doute « enjaillé », décliné sous différentes formes et qui signifie « aimer, apprécier, savourer ». À ses origines, je soupçonne l'apport de l'anglais « enjoy ». À la sortie des classes d'un lycée de Grand Bassam, ville balnéaire de la côte est ivoirienne, un groupe d'élèves me donne leur avis sur le Nucci. Une demi-douzaine d'entre eux m'encerclent. Ils ne cachent pas leur engouement pour cette langue. « Je suis Gbra. G-B-R-A », clame une jeune fille qui signifie par là qu'elle vient tout juste de flocher son petit copain. À ses côtés, un jeune étudiant m'interpelle en Nouchi, presque menaçant. « Je vais te babière !» J'aimerais croire qu'il me veut du bien, mais il m'explique que cela veut dire « je vais te frapper ». Heureusement, il ne s'agit que d'un exercice linguistique. Une chose est son contraire. Parfois, un même mot « nouchi » peut avoir plus d'un sens. On emploiera indifféremment, par exemple, le mot « daba » pour signifier le verbe « manger » ou « frapper ». Même double signification pour « déjà », qui peut vouloir dire « ouvert » ou « blessé ». On trouve également le terme polysémique « denjo », selon qu'on veuille « comprendre » ou « se déshabiller ». D'où l'importance du bon choix de mots. Le mot « nouchi » l'aller a plusieurs sens. Par exemple, si je dis « passe-moi ton lalé », il veut alors dire « passe-moi ton téléphone ». Mais si je dis « je vais te lalé », cela veut dire « je vais te frapper », confie fidèle à Zoku, un peu étonné de me voir tout d'un coup reculer d'un pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Le mot « lalé » a encore plusieurs autres significations. Cette fois, l'expert en communication commerciale en rajoute une couche. C'est le contexte qui fait foi de tout. L'aller peut aussi vouloir dire surprise ou dérober. Même ambiguïté avec le mot modia, qui vient de maudit et qui peut aussi bien être un compliment qu'une injure, dit David Guadio. Des loubards à l'origine du parler nouchi. Félix Houphouët-Boigny, qui présidera le pays pendant 33 ans, est crédité du miracle ivoirien, une période de forte croissance économique frisant les 7% dans les décennies 1960 et 1970. Le régime politique, hérité des indépendances africaines, en est un de parti unique. Au moment où le Nouchi prend son envol, à la fin des années 1970, un certain mécontentement à l'égard du pouvoir tente de se faire entendre, en particulier chez un groupe de jeunes peu scolarisés. Ce sont les Zigouis, synonyme de loubar. C'est à ces jeunes contestataires de la rue que l'on doit l'émergence du parler Nouchi. Ils se sont inventés un langage pour se faire comprendre entre eux. Éventuellement, leur cri de colère s'est propagé aux masses, surtout par le biais des conducteurs de taxi. Peu à peu, la population a repris à son compte ce vocabulaire qu'elle a, à son tour, enrichi de mots empruntés aux langues de la soixantaine d'ethnies qui composent la Côte d'Ivoire, explique, non sans fierté, David Kouadio. Le Nouchi est tellement prédominant que quelques mots ont déjà fait leur entrée dans les grands dictionnaires de langue française. C'est le cas du mot « chip » que Wikipédia définit comme « un élément de communication non-verbale courant en Afrique ». Il s'agit d'une onomatopée, un genre de bruit que fait la langue comme si on suçait ses dents. Enseigner le Nouchi? Quand il est question du phénomène de langue propre à des communautés distinctes, la même question se pose. Que ce soit pour le chiac acadien, le joual québécois ou le créole haïtien, doit-on consigner ou codifier ces inventions linguistiques que d'aucuns désapprouvent et que d'autres accueillent à bras ouverts? En Côte d'Ivoire, les avis semblent partagés. Normaliser le Nouchi? Bien sûr que oui, tranche David Guadio, bien conscient malgré tout des difficultés à standardiser une langue pour laquelle il n'existe pas de transposition phonétique universelle. Assurément qu'il faudra enseigner le Nouchi, opine à son tour, fidèle à Zoku, un converti des nouveaux mots. Laissons le dernier mot aux élèves de la Haute École Galilée. Je suis absolument en faveur d'un dictionnaire de Nucci, s'exclame Chris, un jeune lycéen qui s'amuse à enrichir son parler d'expressions colorées farcies de mots Nucci, pas toujours académiques. Sa camarade de classe, Ruth, elle aussi, est d'accord avec l'idée de créer un authentique lexique consigné du Nucci. Mais l'un comme l'autre s'oppose fortement à ce que le Nucci soit enseigné à l'école. À force de le régulariser, avance Ruth, le Nucci deviendrait à son tour un langage banalisé. Et Chris d'ajouter, un langage conformiste et ennuyeux, comme le devient tout contenu officiel enseigné à l'école. À l'unisson, Chris et Ruth, flanqués d'autres camarades de classe, lance un même cri du cœur, cette fois en Nucci. « Jaïne, Jaïne !» ou, en français, si vous préférez, « Jamais au grand jamais !» Parfois, pas besoin de parler Nucci pour le comprendre. C'était « Parlez-vous Nucci ?» un texte de Roger Clavet, paru le 12 juin 2024 dans l'express.ca de Toronto.
Et si on siestait, même au travail? Un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 6 juin 2024 dans la presse. On a oublié que le repos est un droit acquis à la naissance. Marie-Ève Saint-Germain a une pointe d'audace dans le regard. Elle vient de me dire que la sieste est un enjeu politique et elle sait que sa position est radicale. La femme de 33 ans a accumulé des épuisements professionnels avant de rebâtir sa relation avec le repos. Elle est devenue professeure de yoga et s'est particulièrement intéressée aux techniques de relaxation profonde. Apaisée par ces pratiques, elle s'est dit qu'il serait merveilleux de les faire entrer dans les bureaux du Québec. Il y a un peu moins d'un an, elle fondait donc Espace Mental. Depuis, elle offre des services de sieste en entreprise. Concrètement, Marie-Ève Saint-Germain débarque à l'heure du dîner, donne une conférence sur l'importance du sommeil et guide une sieste de groupe d'une vingtaine de minutes. Les travailleurs peuvent alors s'endormir ou errer dans la délicieuse zone entre le dodo et l'éveil. L'option 5 à sieste est aussi offerte si l'heure du lunch est trop remplie. Qu'on me comprenne bien, j'adore l'idée de somnoler au bureau. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal dans le fait d'aller en entreprise pour prôner le repos? N'est-ce pas là une manière pour les gestionnaires de stimuler encore la productivité de leurs employés? Marie-Ève Saint-Germain hoche la tête et fait un parallèle entre la sieste et le yoga. Plusieurs personnes commencent à pratiquer le yoga pour l'aspect physique de l'activité. Elles en viennent ensuite à s'intéresser à la philosophie qui le sous-tend. De la même manière, c'est tout à fait correct que ce soit la productivité qui nous amène à valoriser le repos. Quand je vais en entreprise, j'essaie tout de même de ne pas trop parler de productivité, précise-t-elle. Je dis des choses comme « On ressort de notre sieste plus vigilant et alerte, on fait moins d'accidents et d'erreurs. S'endormir permet à notre cerveau de ralentir, de consolider la mémoire et de récupérer physiquement, etc. » Il y a plein de bénéfices à faire une courte sieste plutôt que de se forcer à travailler, mais le but est d'amener les participants à réfléchir à leur relation avec le sentiment d'urgence qu'on connaît tous. Peut-être qu'ensuite, ils vont prendre leur pause, faire une sieste une fois par semaine, éviter de remplir leur agenda jusqu'au soir ou dormir plus longtemps le matin, bref, réaliser que c'est correct de ne pas travailler à 140% du temps. Il ne faut donc pas que la sieste soit un pansement à appliquer sur la plaie béante de l'épuisement, mais plutôt un outil de plus offert dans un arsenal important. À la base, il y a la santé et la sécurité au travail, insiste Marie-Ève Saint-Germain. Il faut aussi pouvoir prendre des congés sans se faire harceler, avoir une sécurité psychosociale et être bien payé pour ne pas avoir à surtravailler. Après, pour moi, se coucher au sol est un acte de rébellion contre la société de production dans laquelle on vit. Si les siestes guidées d'espace mental se déploient jusqu'à maintenant dans des organisations au mandat créatif, Marie-Ève Saint-Germain fait aussi partie de l'équipe de Recharge-me, une entreprise qui conçoit des cabines de repos pour des milieux pas mal plus traditionnels, comme des hôpitaux et des institutions financières. La sieste n'est pas réservée aux bureaux à air ouverte avec barista et fût de bière. Et si tout ça m'étonne, ce que je trouve le plus surprenant dans le discours de Marie-Ève Saint-Germain, c'est la distinction qu'elle fait entre la relaxation et le repos. Lire ou marcher en forêt sont des activités relaxantes, mais le repos se doit pour elle d'être passif. C'est s'asseoir sur le divan et fermer les yeux, apprendre à siester ou dormir plus. On peut d'ailleurs télécharger des micro-siestes guidées sur le site d'Espace Mental. Si tout ça ne nous vient pas naturellement, Marie-Ève Saint-Germain se tient toutefois loin des modes d'emploi. Elle refuse de dicter à quoi devrait ressembler le repos en encourageant, par exemple, les gens à dormir moins de 26 minutes entre 14 et 16 heures, la recette parfaite selon certains. Elle sait que cette pause s'inscrit dans un contexte bien personnel, mais elle considère qu'il s'agit d'une activité accessible à tous. Couche-toi au sol et ferme les yeux pour 20 minutes, ou garde les yeux ouverts si tu préfères et commence par 2 minutes. Une sieste à la fois, tu vas te rappeler qu'on n'est pas que des êtres humains qui doivent faire, mais aussi des êtres qui sont. En t'arrêtant, tu peux penser à ce que tu veux porter comme valeur sans être en train de créer la valeur. J'applaudis toutes ces idées, mais je me dis qu'on a beau vouloir protéger notre repos, c'est difficile d'adopter notre propre rythme quand notre famille, nos collègues et notre société vont si vite. Avez-vous déjà essayé de ne pas travailler un vendredi sans recevoir de message? Bonne chance! Si le repos est un droit, il me semble qu'on n'y accorde collectivement pas beaucoup d'importance. Marie-Ève Saint-Germain admet qu'il y a du chemin à faire, même après 5 ans de relaxation profonde et de sieste régulière, elle n'arrive pas à se déposer sans culpabilité. J'ai tout le temps cette petite voix qui me dit que je suis paresseuse. J'ai accepté qu'elle ne disparaîtra probablement jamais. On est trop dans une culture du go, go, go. Malgré tout, Marie-Ève continue à fermer les yeux et compte promouvoir le droit au repos jusqu'à ce que son message soit entendu. Elle espère d'ailleurs devenir porte-parole de la sieste au Québec. Parlez-moi d'un titre qui fait rêver. C'était Et si on siestait même au travail, un texte de Rosémée Autonne-Témorin, paru le 6 juin 2024 dans La Presse.
Quand un article d'occasion coûte plus cher qu'un œuf, un texte de Tatiana Mulot-Wailly-Pelletier, paru le 30 juin 2024 dans La Presse. Trouver un livre de recettes pour seulement 4,25 $ au Village des Valeurs ou encore un range couvert à 2,85 $ chez Renaissance, ça peut sembler être des aubaines, sauf si l'étiquette de Winners, encore collée sur le livre, prouve qu'il ne vaut que 2,99 $ et que le site web d'IKEA indique que le range couvert ne coûte que 99 sous. C'est spécial quand je vois ça. En dessous, tu vois l'étiquette du Dollarama, 4 ou 3 $, puis là, tu vois que le Village des Valeurs,
l'a mis à 4,99 $. Jessica, la plante tremblée, magasine souvent dans les friperies afin de trouver des articles abordables pour décorer sa maison et habiller ses trois jeunes enfants. Toutefois, les prix des articles vendus dans des commerces comme le Village des Valeurs lui font douter qu'acheter de seconde main soit toujours une aubaine, surtout lorsque ces friperies revendent des articles d'autres enseignes plus chers que leurs prix originaux. Sa vidéo « Viens au Village des Voleurs » dénonçant ce problème a accumulé près de 75 000 visionnements sur TikTok. Elle n'est pas la seule à avoir constaté ces disparités de prix dans les magasins d'occasion. Une paire de leggings. On a regardé la grandeur et on a vu l'étiquette du Dollarama qui était 4 $. Et le pantalon était rendu 9,97 $ au Village des Valeurs, dénonce Annie Lavallée, éducatrice aux primaires, qui achète dans les friperies par souci écologique. Un problème répandu. Début juin, la presse a visité 3 succursales du Village des Valeurs et 6 succursales de Renaissance à Montréal et à Laval. Dans toutes sauf une, nous avons trouvé des articles d'autres commerces arborant encore leur étiquette originale, montrant un prix moins élevé que celui de revente dans les friperies. Dollarama, IKEA, Winners, Walmart. Les articles surfacturés proviennent souvent de détaillants facilement reconnaissables. Un ensemble de salières et poivrières en piteux état était affiché à 5,99 $ au Village des Valeurs du boulevard Pie-Neuf. Le même ensemble neuf chez Dollarama, 4,25 $. Une tasse à café vendue 4,97 $ chez Walmart est revendue 8,85 $ aux Renaissance du quartier Côte-des-Neiges. En cherchant sur le site web d'IKEA, on découvre rapidement que le pot à plantes soccer, revendu à 2,99 $ au Village des Valeurs, vaut 1,99 $ chez l'entreprise suédoise. 50 sous, 1 $, 3 $, ces différences de prix peuvent sembler minimes, mais pour certains clients, c'est une question de principe. Ça me choque, je me dis, c'est des dons qu'ils reçoivent, pourquoi les vendre plus cher? S'indigne Annie Lavallée, éducatrice aux primaires. Ce n'est pas la première fois que de telles disparités de prix ont été remarquées dans les grandes chaînes de friperies. En février 2024, CBC a notamment fait un reportage sur un problème similaire dans les succursales du Value Village, société parente du Village des Valeurs au Canada, à Toronto. Pour les consommateurs, ça crée un malaise parce qu'il y a une incohérence entre le positionnement, l'orientation de l'enseigne de seconde main et la pratique en tant que telle, soit le prix qui est affiché, affirme Myriam Hertz, experte en consommation durable et en marketing. Plusieurs de ces articles mal étiquetés, identifiés par la presse, ont été trouvés dans des succursales de Renaissance, qui est pourtant un organisme à but non lucratif ayant pour mission la réinsertion socio-professionnelle. Ce statut lui permet d'ailleurs de ne pas imposer de taxes sur ces articles. Les politiques de prix par catégorie pourraient avoir joué un rôle dans ce phénomène, estime Madame Hertz. Le prix minimum pour vendre un livre dans certaines friperies, ça va être peut-être 1 $ ou 4 $. Mais ça s'avère, c'est plus élevé que le prix de vente dans l'enseigne de type Dollarama. L'inflation, qui affecte aussi l'économie de seconde main, pourrait être un autre facteur. Les coûts sont plus élevés pour les friperies et elles doivent répercuter ça sur leur prix de vente, explique la professeure de l'Université du Québec à Chicoutimi. Des erreurs d'étiquetage, une représentante de Renaissance soutient qu'il s'agit simplement d'erreurs d'étiquetage. Ce sont des humains. On a beaucoup de participants, employés, à chaque magasin, chaque friperie, est un lieu d'apprentissage pour les gens qu'on réinsère sur le marché du travail, affirme Linda Pimparé, directrice adjointe communication et marketing de Renaissance. Elle affirme que les clients qui remarquent ces différences de prix peuvent négocier un ajustement de prix. Il faut qu'ils aillent à la caisse et on va trouver une solution, assure Linda Pimparé. Le village des valeurs abonde dans le même sens. En moyenne, un magasin Value Village, village des valeurs au Canada, fixe le prix et la marchandise d'environ 30 000 articles par semaine, explique pour sa part Sarah Gogol, directrice des communications de l'entreprise américaine. Nous invitons nos clients à discuter avec un responsable du magasin s'ils pensent qu'un article a été mal évalué par inadvertance, afin que nous puissions y remédier rapidement. Virginie Tremblay en a fait l'expérience. Pour cette mère de famille, ces prix disparates ne sont pas si graves. Je pense que les gens au tri en voient beaucoup, et des fois, ils peuvent ne pas porter attention, soutient celle qui visite des friperies depuis sa jeunesse, en fouillant parmi la sélection de vêtements pour bébés d'un Renaissance. Tu peux leur dire, « Hé, ça, c'est pas la bonne valeur. Est-ce qu'il y a une erreur? » Des fois, ils vont t'accommoder. Des fois, non. La presse a aussi fait le test et les réponses ont été variées. Lors de nos trois tentatives chez Renaissance, deux articles ont été réduits. Au Village des valeurs, un article a été réduit, l'autre, non. Que dit la loi? L'article 224C de la Loi sur la protection du consommateur énonce qu'aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Ainsi, le consommateur est en droit d'exiger le prix le plus bas indiqué, peu importe si l'étiquette collée sur l'article provient d'un autre magasin. En cas de refus de la part du commerçant, le consommateur pourrait communiquer avec l'Office de la protection du consommateur afin de porter plainte, assure Marie-Pierre Duplessis, conseillère en communication de l'organisme provincial. C'était « Quand un article d'occasion coûte plus cher qu'un neuf », un texte de Tatiana Mulowai-Pelletier, paru le 30 juin 2024 dans la presse.